l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Lundi 20 octobre, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour ce Présence Midi. On est ensemble jusqu'à, nous sommes bien sûr ensemble jusqu'à 13h. Voilà, quand si l'ordinateur veut bien me... J'ai vraiment pas de chance avec l'ordinateur. Bonjour David Torchala.
Bonjour Philippe, vous n'avez pas de chance avec l'ordinateur, mais nous on est là, vous voyez.
Mais oui, et en direct, ça prouve qu'on est, on est bien en direct. Il est 12h passé de 2 minutes. On va vous retrouver dans un instant pour l'actualité, bien sûr, du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et alors, je pense que le sanctuaire va encore prendre un visage différent.
Hein. Ah ben oui, parce qu'en fait, on va monter à cheval, tout simplement. Ce week-end, c'est le pèlerinage des gardiens de Camargue. Un beau pèlerinage très coloré. Donc, je vais pouvoir vous en dire plus dans quelques secondes.
Dans quelques instants. Et puis, nous prendrons ensuite la direction des sommets avec le groupe NPI qui regroupe 7 stations de ski Pyrénées et le Pic du Midi. Ils ont tenu une conférence de presse de rentrée avant le lancement de la saison hivernale et nous ferons le point ensemble sur les nouveautés pour l'hiver 2025-2026. Et puis, Mathias Terrier recevra Antonia Salzano, c'est la mère de Carlo Acuti qui a été canonisée le 7 septembre dernier par le pape Léon XIV. Elle viendra témoigner dans 2 passages à Lourdes et présenter son livre « Le secret de mon fils Carlo Acuti », d'ici donc dans quelques minutes dans ce magazine Présence Midi. Mais avant de vous retrouver, David, on va retrouver Éric Leclerc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 20 octobre. J'espère que l'ordinateur ne va pas me faire de misère.
Allez, on croise les doigts.
Dermatose nodulaire bovine, un déploiement des mesures nationales de restriction en Aveyron et dans le Gers, informent les préfectures. Ces derniers jours, il est constaté l'apparition de plusieurs foyers ponctuels résultant probablement de mouvements d'animaux, dont certains illicites. Plusieurs mesures viennent d'être prises. Celles-ci ont pris effet le 18 octobre et sont valables jusqu'au 4 novembre inclus. Elles seront levées le 5 novembre si la situation sanitaire le permet, informent les préfectures. Et puis toujours à propos de la dermatose nodulaire, mise en place d'une zone réglementée relative dans 9 communes de l'Ariège. Rappelons qu'un foyer a été confirmé le mercredi 15 octobre dans les Pyrénées-Orientales qui concerne 3 exploitations proches. En conséquence, une zone de surveillance est mise en place dans un rayon de 50 km autour de ce foyer qui concerne 9 communes du département de l'Ariège. Les 7 formant de Donnezan, Artigues, Carcanière, Mijanès, Le Plat, Le Puche, Quirigute et Rouze, ainsi qu'Ascou et Orlu. Le métro ferré nouvelle génération Alstom accueille ses premiers voyageurs sur la ligne 10 du métro parisien. Véritable concentré de technologie, ce métro offre aux voyageurs de nombreux équipements pour améliorer leur trajet. Un projet ambitieux mobilisant les expertises françaises d'Alstom, 2300 collaborateurs à l'Alstom, dont 700 ingénieurs mobilisés. 8 sites d'Alstom en France, dont Tarbes pour les équipements des chaînes de traction.
Un grand merci Éric Leclerc. D'ailleurs, on vous retrouve d'ici quelques minutes à 12h30 pour refaire un point sur l'actualité, cette fois-ci beaucoup plus régionale.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
Je dirais presque à cheval, mon cher David, dans l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Ben oui, à cheval, évidemment, parce que bien dans quelques jours, c'est un pèlerinage que l'on affectionne particulièrement à Lourdes qui va se tenir. Et je ne peux que vous inviter à venir voir le pèlerinage des gardiens de Camargue, la Nation Gardiano. Ben, c'est l'un des derniers pèlerinages de la saison à Lourdes. Alors, c'est peut-être l'un des plus colorés, parce que les participants à ce pèlerinage, eh bien, sont invités à venir avec leur costume régional, montés sur leurs chevaux blancs, poussés par le mistral. Ils sont les cavaliers maîtres d'une terre encore sauvage, entre mer et rizière. Voilà des beaux mots de Frédéric Mistral, le poète, pour désigner ces gardiens. Eh bien, alors ne cherchez pas, hein, désolé, vous ne les trouverez pas cette fois au Sainte-Marie-de-la-Mer, au Gros-du-Roi ou à Arles, bah, parce que ils sont chez nous, dans la cité mariale à Lourdes. Donc c'est samedi, dimanche et lundi. Voilà. Donc les gardiens des manades camarguaises, vous savez, les manades, c'est les troupeaux de taureaux qui vivent en semi-liberté. Ben, ils se rassemblent pour leur pèlerinage biannuel au sanctuaire, parce qu'il n'a lieu que tous les 2 ans. Ils sont 3000 rassemblés au sein de la Nation Gardiano. La Nation Gardiane, voilà, c'est une association qui a été créée en 1909 pour, je cite, maintenir et glorifier le costume, les us et les traditions du pays d'Arles, de la Camargue et des pays taurins. On va en prendre, cher Philippe, plein les yeux ce week-end à Lourdes, voilà, avec des chevaux blancs, des tambourinaires, des bannières de procession, des costumes traditionnels. Ils sortent le grand jeu hein, pour Notre-Dame, les gardiens, chaque année. Alors, il y a des photos qui sont magnifiques, si vous voulez voir ça, sur le site internet du sanctuaire, où on voit les hommes qui sont en tenue de gardien, donc avec le pantalon en peau de taupe, la chemise et la veste noire en velours, et puis le chapeau. Et les femmes, elles portent majoritairement le costume de l'Arlésienne, vous savez, qui comporte une grande coiffe, pardon, oui. Je n'ai peut-être pas le terme très précis, mais en tout cas, ce qui est précis, c'est qu'elles portent la chapelle. La chapelle, c'est le plastron de dentelle qui couvre la poitrine et qui est rattaché à la taille, et puis évidemment, la jupe longue. Alors, il y a un autre symbole, évidemment, qui est connu, c'est cette croix de Camargue, hein, qui est vraiment, le symbole par excellence hein, des gardiens, et qui mêle la croix dont les extrémités se termine par les tridents, vous savez, c'est cet instrument qui pique un petit peu les fesses des taureaux, et puis aussi qui représente le cœur et l'encre. Voilà, donc chacun de ces trois éléments qui dessinent respectivement la foi, la charité et l'espérance. Pardon de ce petit trait d'humour, mais effectivement, nous sommes vraiment là dans des terres de tradition, et donc on sera très heureux, en tout cas au sanctuaire, de pouvoir accueillir ce week-end ce beau pèlerinage des gardiens.
Alors, le sanctuaire est heureux, mais je crois aussi les Lourdais sont heureux, puisque les chevaux dorment un petit peu plus loin, donc ils font toujours ce trajet entre là où ils dorment et le sanctuaire, et c'est toujours un émerveillement pour les Lourdais, pour les gens qui seront là aussi, pour les enfants.
Oui, vous avez raison. En fait, il y a cette année des ambulations qui sont organisées à la fois dans la journée du samedi et du dimanche, en l'après-midi et le soir, en fait, pour chaque déplacement de grandes célébrations. Vous savez que les célébrations, elles sont à l'intérieur du sanctuaire, avec le grand chemin de croix, la procession mariale au flambeau, la procession eucharistique, et donc à chaque fois un déplacement des chevaux pour se rendre au sanctuaire. Et donc c'est vrai que ça émerveille tout le monde. C'est vrai, il y a peu de pèlerinages comme celui-là que les Lourdais affectionnent particulièrement, dans le sens où ils se rendent, en fait, et se déplacent, sortent des maisons pour voir le pèlerinage. Et il y a le pèlerinage militaire qui est comme ça. Il y a le pèlerinage de Lourdes, Cancer Espérance, dont on est très fiers parce qu'il est né ici à Lourdes. Il y a le pèlerinage des motards. Alors ça, évidemment, alors il y a des spectacles, il y a plein de choses aussi en marge du pèlerinage. Et puis il y a aussi tous les 2 ans ce pèlerinage des gardiens. C'est vrai que c'est un bon moment.
Voilà, il fait partie effectivement de ces pèlerinages, donc il faut venir cette année parce qu'ils ne sont pas là chaque année, ils sont là tous les 2 ans, vous l'avez dit.
Ils sont là tous les 2 ans, et donc il faut pas rater cette occasion. Voilà, il y a vraiment un temps de ferveur. Vous savez, on est vraiment dans les derniers temps hein, de la saison des pèlerinages. Voilà, je crois que c'est le 2 novembre ou quelque, voilà, où il y aura la dernière des processions mariales pour s'endormir un petit peu. Ça, c'est au sens vraiment.
Ça ne dort jamais.
On
nous le prouvez chaque semaine.
Toujours, mais on va rentrer dans un rythme un peu plus calme, en tout cas. Voilà, en extérieur, même si ça bouillonne toujours, vous savez, le sanctuaire à l'intérieur. Mais en tout cas, on se prépare aussi à célébrer très dignement la Toussaint.
Et la Toussaint, voilà. Puis après, bien sûr, il y aura le 8 décembre où Lourdes se réveille à nouveau, puis les fêtes de Noël, effectivement. Et puis après, ben voilà, hein, on repartira sur le calendrier. Donc, on rappelle, c'est ce week-end, samedi,
c'est
dimanche et lundi.
Même dès vendredi soir, mais en tout cas, samedi, dimanche, lundi, ne manquez pas, surtout mon conseil, la procession mariale au flambeau du samedi soir. Vous savez, on processionne avec des flambeaux, ils ont des torches avec leurs chevaux, donc c'est vraiment, c'est très beau. C'est beau, mais c'est priant, vraiment.
Oui, c'est priant, tout à fait. Moi, je fais une petite parenthèse, je sais pas s'il nous écoute, mais je sais que Francis Diaz, qui a travaillé au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, est fan et participe aussi avec eux. Il y va régulièrement les voir parce qu'il a créé une vraie amitié avec eux. Et donc, je pense qu'il doit être un peu aux manœuvres avec les gardiens. Donc, s'il nous écoute, Francis, qui habite ici, hein, eh bien, on le salue et puis on lui dit, bon pèlerinage des gardiens aussi pour lui.
Voilà.
Présence à Pamiers.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci.
Guillaume Roger, je vous laisse vous présenter. Quel est votre rôle dans le groupe NPI ?
Alors, je suis directeur opérationnel du groupe NPI et je m'occupe plus particulièrement justement de cette marque que nous avons créée en 2005 et qui fête ses 20 ans aujourd'hui, qui regroupe 7 domaines skiables et sites touristiques de montagne, notamment le Pic du Midi et le Pont d'Espagne.
Vous avez annoncé des chiffres qui sont assez encourageants, une bonne saison, parce qu'on se retrouve toujours au niveau du mois d'octobre où on ne sait pas du tout comment l'hiver va être, mais la saison dernière était bonne.
Ouais, la saison dernière a été vraiment très bonne. On a fait 2 170 000 journées skieurs et passages piétons. Donc en augmentation par rapport à l'année d'avant et aux années aussi d'avant, à la moyenne des 6 dernières saisons. On a fait aussi un chiffre d'affaires intéressant à 74 millions d'euros contre 64 millions l'année d'avant. Donc on est plutôt satisfait et surtout du fait qu'en fait, quand les conditions sont là, les gens répondent et ils viennent skier.
Vous avez bien sûr la carte Nous Soucis, mais vous avez l'année dernière mis en place la carte Fastpass.
Oui, alors c'est la même chose, la carte Nos Soucis, on l'a dotée d'un nouveau service en fait.
C'est pas une option payante.
Non, c'est pas une option payante, ça fait partie du prix de la carte. Et grâce à ça, donc les gens ils évitent la billetterie. Et maintenant ils évitent aussi la queue aux remontées mécaniques. On a équipé 29 remontées mécaniques dans nos stations, les principales en fait. Et les gens n'ont plus besoin de faire la queue, ils passent devant tout le monde comme dans un parc d'attractions en fait.
D'accord, vous avez repris un peu cette idée.
Exactement, on a copié un peu, collé les idées. C'est bien aussi de temps en temps d'aller copier des idées ailleurs. Et c'est vrai que les parcs d'attractions ont aussi souvent les mêmes problématiques que nous. Donc là, on s'est inspiré de ce qui se faisait là-bas, oui.
20 ans, vous avez prévu quoi au niveau des animations ou pour fêter ces 20 ans ?
Alors on a prévu tout un tas d'événements tout au long de la saison, en décembre, en janvier. Et dès début mars, en fait, on va finir par un point d'orgue à Cotteret, le 7 et le 8 mars, avec un week-end vraiment très très festif, avec de la compétition sportive, avec une compétition en mode, on va revivre un peu les JO d'hiver par équipe de 6, avec vraiment une compétition mais ouverte à tous. Hein. L'idée, c'est pas de la réserver à l'élite mondiale du ski. Le soir, une grosse soirée en bas à Cotteret sur l'esplanade des œufs. On attend 4 artistes différents, on attend jusqu'à 10 000 personnes le soir même, et le lendemain on remonte à la station avec des animations pour les enfants, des ski tests, des apéros brasero, enfin voilà, plein de choses pour animer la journée aussi du dimanche.
J'ai été surpris de tous les chiffres des investissements puisque les 7 stations sont passées pendant cette conférence de presse, ont présenté les nouveautés pour la saison, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire. C'est si on additionne tous ces millions d'euros qui sont investis, c'est énorme.
Oui, cette année, on additionne 12 millions d'euros d'investissement. Alors, pour tout vous avouer, c'est pas non plus une grande année d'investissement parce que cette année, il n'y a pas d'investissement, notamment au niveau des remontées mécaniques, qui pèsent lourd souvent dans la partie investissement. Mais il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau des services, de la restauration, des activités, pour justement dire aux gens, mais voilà, on va pas faire que du ski chez nous, on va s'amuser, il y a plein de choses à faire, concurrencer d'autres... idées de vacances pour ceux qui ont peut-être peur de faire que du ski.
On parlait des cartes, hein. Vous faites toujours des promotions si on la prend bien avant, c'est ça ?
Oui, alors on a la carte Nos Soucis qui permet d'être prise au dernier moment. Celle-là, on peut la prendre même sur les pistes, hein, même à la billetterie. Mais pour les plus fidèles, on a ce qu'on appelle le forfait saison. C'est un forfait qu'on achète une fois à l'automne en général et qu'on utilise pour toute la saison de ski. Et en ce moment, on a une promotion qui dit qu'on le vend à moins de 30%. et jusqu'au 15 octobre avec la possibilité de payer son forfait en 4 fois sans frais. Voilà, c'est la station qui prend à la charge les frais en fait de ce mécanisme, ce qui fait que par exemple sur l'Uzardiden, ça fait le forfait à 99 euros par mois.
D'accord, pour avoir cette sur l'année. Vous avez parlé aussi de la progression. Vous êtes en progression donc sur la saison dernière était une bonne saison, mais aussi l'été. Aujourd'hui, la montagne, ça se consomme été comme hiver.
Oui, tout à fait. La montagne se consomme de plus en plus l'été, notamment suite au Covid. On voit de plus en plus de gens venir prendre le frais à la montagne, profiter des beaux paysages, de la tranquillité aussi qu'on peut retrouver peut-être vis-à-vis de la mer ou de l'océan. Et on est en progression puisque cette année, on a accueilli 250 000 visiteurs sur nos stations. Alors nous, quand on dit visiteurs, c'est quelqu'un qui emprunte le remontée mécanique, que ce soit un télésiège pour accéder à un point haut d'une randonnée, pour aller profiter d'un déjeuner dans un restaurant d'altitude, pour faire du VTT aussi ou pour accéder au pic du midi pour visiter le pic.
Donc en fait la montagne, effectivement, vous l'avez dit, elle se consomme tout le temps. On va parler bien sûr des investissements sur fabriquer de la neige. On a toujours cette idée que malheureusement avec les dérèglements climatiques, avec le réchauffement climatique, c'est des choses qui malheureusement vont prendre de l'ampleur.
Oui, tout à fait. Alors nous, le plan actuellement, c'est de se dire qu'on a fait des études très poussées avec des professionnels, avec Météo France, notamment l'étude de Climsnow, qui est assez connue, qui dit que jusqu'à 2035, on est encore sûr de pouvoir skier dans nos stations. Donc il faut qu'on profite de ce temps, qui n'est pas non plus très long, hein. On est en 2025, il reste une dizaine d'années, pour pouvoir réinventer l'économie de demain en montagne, avec nos remontées mécaniques, tout en profitant du ski sur cette période-là, puisque comme je vous le disais, l'année dernière, il y a eu de la neige et il y a eu vraiment beaucoup de monde dans les stations. Donc voilà, l'idée, c'est de repenser le ski en se diversifiant, aussi notre activité, nos chiffres d'affaires. C'est le cas, on le voit, par la reprise notamment de nombreux restaurants d'altitude, qui n'étaient pas le domaine au départ d'activité d'une station de ski. Mais de plus en plus, là aujourd'hui, dans toutes les stations NP, vous allez retrouver au moins un restaurant qui est géré par la station. Et ça permet aussi d'ouvrir l'été, de peut-être regarder le potentiel 4 saisons et de diversifier notre activité.
Toutes les propositions, on les retrouve sur le nouveau site NP.
Oui, alors pour les 20 ans aussi, on profite du lancement du nouveau site np.com. Donc c'est un site sur lequel on va pouvoir réserver tout son séjour au ski, que ce soit l'hébergement, la location de matériel, de cours de ski, de forfait bien entendu, mais aussi d'activités diverses et variées. Et on peut aussi bien entendu, au dernier moment, le matin même ou la veille, vérifier que la skiabilité est bonne grâce aux webcams, à l'enneigement, aux ouvertures de remontées mécaniques, etc. Donc ce nouveau site, bon, fait peau neuve, d'où son nom, le nouveau site, et il sera lancé donc courant novembre, n-py.com.
Voilà, ça sera le nouveau site relooké pour aussi être au plus près des personnes. Hein. Il est repensé suite sûrement à des remarques qui vous ont été faites.
Hein. Oui, tout à fait. On a travaillé sur plusieurs axes. D'abord, l'axe justement, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le 4 saisons, le fait de pouvoir l'utiliser tant en mode été qu'en mode hiver, ce qui n'était pas forcément le cas parce qu'il avait été fait il y a 5-6 ans. On était plus encore dans le tout-ski. Il a été aussi repensé pour avoir une vision très web-responsive et mobile first, en fait. Ce qu'on appelle mobile first, c'est les gens qui vont utiliser le portable plutôt qu'un PC pour aller voir les sites internet. Donc on se rend compte que nous, 70% des achats sont faits à partir de son mobile pour acheter le forfait, mais aussi les séjours de ski. Donc il a été repensé pour ça. Et ensuite, il a été, et ça on est fiers de le dire, il a été fait en totalité par les équipes d'NPI. Donc voilà, on n'a pas fait appel à des agences ou quoi, ok, on l'a fait à la maison,
en interne
par des développeurs qui sont des experts et qui ont fait ce site.
D'accord, merci beaucoup. Eh bien, bonne saison, on va croiser les doigts, puisque bien sûr on souhaite qu'il soit le plus rigoureux possible pour avoir de la neige.
Merci, on le souhaite aussi, on croise les doigts et tout ce qu'on peut.
Merci beaucoup. Nous poursuivons cette conférence de presse et on s'est arrêté au pic du midi de Bigorre, où il y a une saison, vous avez dit, qui a presque battu des records, une très très bonne saison d'été, estivale. Est-ce que les concerts que vous avez mis en place aussi changent la donne?
Alors oui, évidemment que ça a un impact, puisqu'on a pratiquement un concert qui a été organisé chaque semaine ou tous les 10 jours au sommet du Pic du Midi durant tout l'été, donc le gros de la saison pour l'activité annuelle au Pic, au sommet. Et donc c'était une programmation qui était plus riche que les années passées, puisqu'on fête nos 25 ans d'ouverture aux visiteurs. Donc pour vos auditeurs, il y a 25 ans, fin des années 90, le Pic du Midi était un petit peu sur certains questionnements, et l'ouverture aux visiteurs et au tourisme a permis de faire rayonner ce site d'exception dont on est tous fiers en étant pyrénéens. Et donc hier, outre la vue qu'il nous permet, qu'il nous offre depuis la plaine ou depuis Lourdes ou depuis les vallées, bah, aujourd'hui a pu ambiancer différents visiteurs. C'est souvent des gens des vallées ou de la proximité qui ont pu profiter de cette date magique et magistrale sur le sommet du Pic du Midi durant cet été, avec des têtes d'affiches comme Mayam, on a Véronique Sanson, on a eu Bakermat en fin août, on a eu Sterone aussi qui nous a fait un petit clin d'œil. On parle des Jeux Olympiques d'hiver, mais on a revécu un artiste qui s'est produit sur la cérémonie d'ouverture pour nos Jeux Olympiques à Paris. Donc voilà, différents temps forts avec une scène qui a touché différents publics, un petit peu tous les âges et tous les styles de musique.
Et même une journée gastronomique.
Oui, alors journée gastronomique.
Avec un grand chef qui était venu.
Oui, complètement. Avec on a rythmé ou ponctué le passage du Tour de France sur ce mois de juillet avec Stéphane Tournier des Jardins de l'Opéra de Toulouse, qui est chef étoilé, qui est venu avec l'équipe du Pic du Midi signer une journée particulière, un événement au sommet du col du Tourmalet, donc sur la maison du Tourmalet qui a été ouverte par le Pic du Midi il y a 2 ans maintenant, et donc qui a permis de ponctuer ou de participer et d'allier l'événement sportif avec un bon moment culinaire.
Et puis une personnalité qui est venue au Pic du Midi, le président de la République, qui est venu aussi porter son soutien à votre dépôt de demande un peu particulier, qui est celui de l'UNESCO.
Oui, alors c'est vrai qu'on sent l'engouement et on est tous fiers aujourd'hui de notre sommet du Pic du Midi. Mais c'est un engouement qui est partagé jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque le président de la République est venu en juillet pour justement soutenir officiellement la candidature. Bon, il a fait des annonces aussi, je crois, sur Lourdes. Mais on a effectivement, on sent qu'il y a une grosse ferveur et un soutien de la préfecture, de toutes les parties prenantes de ce dossier pour faire... pour reconnaître la liaison et l'alliance de la science donc à travers son observatoire et du tourisme qui est le Pic du Midi. Et donc c'est vrai que c'est un exemple singulier avec un observatoire qui aujourd'hui est le plus haut et qui a été le premier en haute montagne à prouver que la science et l'astronomie avaient son intérêt et sa plus-value en haute montagne. Et donc c'est à ce titre qu'aujourd'hui le Pic du Midi est candidat auprès de l'UNESCO et du patrimoine mondial. Et donc une démarche qui a été lancée il y a plus de 12 ans et qui, nous l'espérons, va croiser les doigts, devrait aboutir dans quelques mois avec un dépôt de dossier auprès de l'UNESCO en début d'année 2026.
Contrairement effectivement aux stations de ski, vous vous ouvrez plutôt l'été et vous fermez l'hiver. Non, ouvert un peu l'hiver aussi.
Non, on est effectivement ouvert toute l'année. Hein.
Toute l'année.
Ouais, souvent on a cette petite confusion. 60% de notre activité, elle s'opère l'été, mais on a de belles journées. On est ouvert du 6 décembre jusqu'à fin avril, jusqu'au 19 avril pour cette année. Et donc on peut
Monter au Pic du Midi en hiver.
Et je conseillerais même de monter. Alors c'est pas sans vertu ou sans velléité commerciale, mais c'est vrai qu'on a un paysage ou un sommet et un panorama qui change chaque saison. Donc aujourd'hui, on est sur un panorama d'automne, mais qui est complètement différent de celui du mois de juillet, par exemple, et qui sera différent de celui du mois de janvier. Donc en gros,
il faut qu'on vienne 4 fois par an.
Il faut au moins venir une fois chaque saison et chaque année.
Parlons d'un beau projet que vous avez juste un petit peu plus bas du Pic du Midi, c'est l'hôtellerie des Laquais.
Oui, complètement. Donc avec un établissement qui a fait partie de l'histoire et de l'édification du Pic du Midi, l'hôtellerie des Laquais qui date des années 30 et qui était sans activité depuis plus de 30 ans. Donc on a ce projet de réhabilitation et de rénovation de cette hôtellerie, lui redonner une fonction et une activité hôtelière. Et donc c'est chose faite, ou c'est pratiquement chose faite, puisque depuis 2 étés on est en phase de travaux avec l'hôtellerie des Laquais qui va renaître et rouvrir à ses visiteurs pour cet été 2026, et qui autour de 16 chambres va permettre de proposer une expérience exceptionnelle en haute montagne avec un établissement qui sera certainement l'un des plus hauts de France, avec un paysage panoramique qui s'offrira autant en terrasse des chambres que de celui du restaurant, et puis une expérience qui sera couplée avec la visite du Pic du Midi, puisqu'on sera relié au sommet par un petit téléphérique, une petite cabine qui fera
un deuxième téléphérique, hein.
Un troisième même, puisque le Pic du Midi aujourd'hui, il faut 2 téléphériques successifs, oui, pour le rejoindre. Donc ça nous fera effectivement un nouveau téléphérique, une petite cabine, hein, c'est un ascenseur qui fera la liaison entre l'hôtel et le sommet, qui évitera les déplacements routiers, et puisque évidemment on est en zone protégée et on sanctuarise la nature pour en profiter pleinement et en faire profiter nos prochains visiteurs.
Là aussi, vous avez quand même misé sur la gastronomie, parce que lorsqu'on vient passer une nuit au Pic du Midi ou demain à l'hôtellerie des Laquais, il y a la gastronomie est mise vraiment en avant.
Alors on a une gastronomie où le passer une nuit au sommet du Pic du Midi et à terme au Laquais fait partie effectivement des bons moments gastronomiques. Bon moment aussi qu'on peut s'offrir en journée puisque le restaurant, le 2877, est ouvert pour chaque déjeuner toute l'année. Et donc on retrouve l'équipe bistronomique et gastronomique des chefs du restaurant le 2877 qui chaque saison nous propose une carte qui fait la part belle aux produits locaux. 99% de nos produits sont issus du département, voire de producteurs limitrophes. Donc on va retrouver plein de petites pépites locales et se faire plaisir avec une belle assiette et un panorama exceptionnel pour en profiter pleinement.
Pour Noël, quelque chose, un événement pour...
Alors, je parlais d'expérience gastronomique cet hiver. On va pouvoir profiter d'un menu 100% porc noir de Bigorre. Donc c'est aussi, on fait partie des sommets iconiques et on fait rayonner aussi nos produits locaux et nos producteurs locaux. Donc quoi de plus naturel que le porc noir de Bigorre. Et donc qui signera aujourd'hui un menu dégustation exceptionnel. On va le proposer en 7 temps, en 7 créations autour du porc noir. Donc on pourra retrouver ce menu à partir de cet hiver en réservation en ligne sur notre site internet pour pouvoir profiter d'une belle pause gastronomique au sommet des Pyrénées.
Donc on peut monter un peu avant midi, manger là-bas et redescendre.
Écoutez, on peut monter un peu avant midi, en prendre plein les yeux avant de se rassasier, de vivre un bon moment à table. Et l'après-midi, de se faire plaisir sur une séance en planétarium, puisque on a toute une partie expérientielle aussi qui permet d'en savoir plus, d'en découvrir un peu plus que ce que le panorama nous offre, et de voyager à travers les étoiles.
Et donc la saison pour l'année prochaine, vous avez dit, on repart sur des concerts aussi pour l'année prochaine, oui. Avec quelques surprises que vous ne pouvez pas dévoiler. Donc quelqu'un d'international, mais on n'a pas encore le nom.
Oui, on divulguera la programmation pour le mois d'avril, plus la programmation pour l'été 2026. Alors c'est pas par souci d'effet de surprise, mais c'est qu'on est encore en discussion et avec certains artistes. Mais le tout étant de proposer des moments aussi magiques chaque année et de toucher un petit peu tous les publics.
Ça plaît vraiment au public, hein, ce concert qui est... Alors moi j'ai assisté à un concert, on est vraiment à proximité. Hein.
Ah ouais, c'est...
De l'artiste. Hein.
Oui, c'est une petite scène, hein, c'est exceptionnel. On est un maximum 800 personnes sur les terrasses panoramiques. En extérieur, on est en fin de journée, début de soirée. Donc on ne gêne ni les visiteurs de la journée, ni les astronomes qui attendent la pleine nuit pour pouvoir observer les étoiles. Et donc sur cette fenêtre, on propose un concert pendant le coucher de soleil. Donc il reste souvent un moment magique ou un moment gravé. Pour son paysage déjà, et puis pour l'artiste qu'on vient écouter qui est à 5 mètres et on va être à maximum 6 mètres de son artiste favori. Et donc sur une petite pause qui est aussi une pause pour l'artiste, hein. Généralement c'est un concert aussi qui démarque, c'est pas tous les jours qu'on se produit à 2877 mètres, et donc c'est souvent aussi un très bon moment pour les artistes, et ça se sent puisqu'il y a une communion, une magie qui s'opère entre l'artiste et ses spectateurs.
Je termine pour dire que les réservations, vous avez dit qu'elles se faisaient majoritairement par le digital.
Oui. Bon, vous le savez, le Pic du Midi, on a une capacité d'accueil qui est assez limitée et qui suppose qu'on pré-réserve son billet de visite à quelques jours ou quelques heures d'avance. Donc on vous conseille 3 jours d'avance ou d'anticipation pour profiter du meilleur tarif. Donc sur notre site internet, on propose des billets jusqu'à moins 20%. Et donc on a tous la possibilité, quelle que soit la saison, hiver comme été, de profiter d'un bon plan ou d'un bon tarif pour visiter en famille ou en individuel le Pic du Midi.
Et c'est aussi une idée cadeau pour Noël de s'offrir à quelqu'un une nuit aussi au Pic du Midi, je crois que c'est magique.
Hein. On a effectivement les nuits au sommet, hein, qui sont proposées toute l'année, autour des 15 chambres. On pourra, début d'année 2026, proposer en pré-réservation et en exclusivité les premières chambres pour l'hôtellerie des Laquais. Et puis si on n'est pas adepte de belles nuits au sommet, on peut toujours aussi se faire plaisir en journée ou faire plaisir à un proche avec des billets cadeaux pour des visites simples ou des visites avec le restaurant sur des menus gastronomiques.
À quelques jours de Noël, eh bien, il faut déjà pouvoir penser et pouvoir réserver à quelqu'un, offrir. C'est une idée cadeau originale.
Eh oui, on est en octobre, mais c'est la période pour commencer à anticiper.
Pour le Black Friday, vous faites quelque chose?
Non, on n'est pas encore très bon là sur le Black Friday, mais on va pouvoir proposer de belles nuits étoilées, que ce soit pendant le Black Friday ou hors Black Friday.
Merci beaucoup Vincent Doutrin, merci.
Radio Présence à Pau, 96.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Reste avec nous puisque dans quelques instants, c'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons. Mathias Terrier sera en compagnie d'Antonia Salzano, la mère de Carlo Acutis, canonisé le 7 septembre dernier par le pape Léon XIV. Elle viendra témoigner dans le magazine De Passage à Lourdes et présenter son livre « Les secrets de mon fils Carlo Acutis ». Mais pour l'heure, je vous propose de faire un point sur l'actualité. On retrouve pour cela Éric Leclerc. Bonjour mon cher Eric.
Bonjour. Dermatose nodulaire bovine, un déploiement de mesures nationales de restriction en Aveyron et dans le Gers, informe les préfectures. La stratégie sanitaire de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine a permis de contenir l'épidémie jusqu'à récemment, puisqu'il n'y avait plus aucun foyer épidémique depuis le début du mois de septembre. Or, ces derniers jours, il est constaté l'apparition de plusieurs foyers ponctuels, résultant probablement de mouvements d'animaux, dont certains illicites. Plusieurs mesures viennent d'être prises, comme l'interdiction de tout rassemblement festif, l'interdiction des marchés de bovins destinés à l'élevage et l'interdiction de toute sortie de bovins du territoire métropolitain. Le respect de ces mesures fera l'objet de contrôles par les services de l'État et forces de l'ordre. En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions seront appliquées. Ces mesures ont pris effet le 18 octobre et sont valables jusqu'au 4 novembre inclus. Elles seront levées le 5 novembre si la situation sanitaire le permet, informe les préfectures. Toujours à propos de la dermatose nodulaire, mise en place d'une zone réglementée relative dans 9 communes de l'Ariège. Rappelons qu'un foyer a été confirmé le mercredi 15 octobre dans les Pyrénées-Orientales qui concerne 3 exploitations proches. En conséquence, une zone de surveillance est mise en place dans un rayon de 50 km autour de ce foyer qui concerne 9 communes du département de l'Ariège, les 7 formant le Donnezan, Artigues, Carcanières, Mijanès, Le Plat, Le Puche, Kerigutte et Rouze, ainsi qu'Ascou et Orlu. Le métro ferré nouvelle génération d'Alstom accueille ses premiers voyageurs sur la ligne 10 du métro parisien. Véritable concentré de technologie, il offre aux voyageurs de nombreux équipements pour améliorer leur trajet, comme l'intercirculation intégrale, dite BOA, permettant de se déplacer d'un bout à l'autre de la rame, des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite, de nombreux écrans d'information en temps réel indiquant le nom de la prochaine station, la sécurité renforcée grâce à la vidéoprotection ou bien encore ventilation réfrigérée, sièges ergonomiques et confortable et port USB. Un projet ambitieux mobilisant les expertises françaises d'Alstom, 2300 collaborateurs d'Alstom, dont 700 ingénieurs mobilisés, 8 sites d'Alstom en France, dont Tarbes pour les équipements des chaînes de traction. Dite désormais Conservatoire du Grand Montauban, communément appelé Conservatoire par les usagers, le pôle des enseignements artistiques regroupant différentes disciplines se nommera bien désormais Conservatoire du Grand Montauban. L'ancienne école de dessin intégrée au sein de l'établissement sera identifiée comme département art plastique, au même titre que les départements musique, danse et art dramatique. Pour fêter les 30 ans de l'inscription du canal du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO, Voies Navigables de France organise un concours photo intitulé « Une échappée belle ». Les participants sont invités à capturer la beauté du canal, de ses paysages et de sa biodiversité. 30 clichés seront récompensés, dont 8 sélectionnés pour illustrer un collecteur de timbres Canal du Midi édité par La Poste. Les lauréats gagneront aussi une croisière commentée au printemps 2026 sur la Naïade, participation en ligne jusqu'au 30 novembre.
Merci beaucoup Éric Leclerc. Voilà pour le point sur l'actualité. L'actualité revient sur Présence, ce sera à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Je vous le disais, c'est une émission exceptionnelle que je vous propose tout de suite avec la maman de Carlo Acuti qui a été béatifiée, canonisée il y a quelques jours par le pape Léon XIV. C'est l'invité de Mathias Terrier.
Présence. De Passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisque nous recevons la maman d'un saint. Antonia Salzano, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, de prendre ce temps pour venir nous parler de votre fils.
Oui, absolument.
Carlo Acutis.
Oui.
canonisé le 7 septembre 2025, et un merveilleux saint pour notre temps, un témoin jeune qui marque et qui a un magnifique témoignage autour de sa foi, du service des autres, de sa dévotion à l'Eucharistie. C'est de tout ça dont nous allons parler avec vous. J'imagine, Madame Salzano, que votre vie a complètement changé ces derniers temps.
Absolument, mais dès quand il est mort, en effet, c'est commencé, parce que le premier miracle, Carlo l'a fait le jour du funéral, il y avait une femme avec un cancer qui devait commencer la chimiothérapie, elle a prié Carlo, et s'est guéri complètement. Et ça, c'était le premier miracle. Et lors de ce moment, il a commencé toute une série de miracles. Chaque jour, nous recevons nouvelles de miracles, de conversions. Et vraiment, c'était une chose incroyable. Puis, j'ai rêvé Carlo, après 2 mois qu'il est mort, il m'a dit, je serai béatifié et après canonisé. Et en effet, c'est vrai parce que c'est passé ça. Et
donc, nous allons raconter son histoire. Vous allez nous raconter son histoire. Auparavant, une autre question. Vous vivez à Assise. Il est lui aussi à Assise, puisque son corps, intact, fait l'objet de dévotion à Assise. Ça doit être quand même, pour la maman que vous êtes, très spécial à vivre.
Ah oui, parce qu'il est habillé comme un jeune d'aujourd'hui. Hein. Et sûrement, ça touche beaucoup les jeunes, surtout, hein, qu'ils voient quelqu'un comme eux. Carlo a vécu une sainteté, une vie normale, ordinaire, mais il a ouvert la porte de son cœur à Dieu et sa vie normale, ordinaire, s'est devenue extraordinaire. Il a vécu la présence de Dieu dans toute sa vie. Et ça, c'est le message de Carlo. C'est possible, la sainteté, aujourd'hui aussi, parce que ce sont des temps difficiles, mais c'est possible de devenir sainte, même dans l'ordinarité d'une vie, en faisant tout en Jésus, par Jésus, avec Jésus, comme faisait Carlo.
Si on reprend le fil de son histoire, il est né en 1991, il est mort à l'âge de 15 ans. Quel enfant était-il, madame ?
Il était un enfant sûrement anticipateur, je dis, il courait avant le temps, parce que 3 mois, les premiers mots, 5 mois, déjà il parlait, avec la foi aussi, il était vraiment extraordinaire, et dans toute sa vie, il était comme en accélération. Il avait. Et aussi avec la foi, il a fait sa première communion quand il avait 7 ans. Et il a écrit « Être toujours uni à Jésus ». Ça, c'est le programme de ma vie dans 7 jours. Et il a commencé à aller à la messe chaque jour, à faire l'adoration eucharistique chaque jour, lorsqu'il avait sa première communion. Mais ça n'empêche pas de vivre une vie normale, comme tous les jeunes. Et surtout, s'est impliqué aussi dans une vie de charité, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Surtout, il était catéchiste, mais il aidait les clochards dans la rue. Dans la rue. Et il amenait des sacs à accouchage, il amenait des repas. Et puis, il faisait de son volontariat avec les plus âgés, avec les jeunes, les jeunes qui avaient des problèmes de boulimie. Il a fait plusieurs des choses. Puis, il a aussi fait des choses qui sont en train de voyager tout le monde, comme l'exhibition sur les miracles eucharistiques, que ce sont des signes que Dieu a donnés où l'hostie s'est devenue chère, où il y avait des choses extraordinaires qui s'est passées pour démontrer que dans l'hostie consacrée, il y a la réelle présence de Jésus dans le monde. Et il a fait cette exhibition qui est en train de voyager tous les continents. Nous parlons de la Chine, des États-Unis, de tous les continents. Et beaucoup de gens s'est rapprochés à la fois grâce à cette exhibition. Et vraiment, je pense que ça, c'est un des œuvres les plus belles que Carlo a fait.
Donc vous nous dites qu'il allait très vite, il était éveillé à toutes les questions de la foi très jeune. Oui. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le geek de Jésus ou le cyber-apôtre ?
Parce qu'il était vraiment un génie de Internet. Hein. Il faisait, à 9 ans, il faisait la programmation en C++, Java, Ubuntu. Il était Il a pris tout seul. Il avait une génialité. Hein. Je pense parce que nous avons un grand scientiste dans notre famille qui s'appelle Ruffini, la règle de Ruffini, mathématique. Mais je ne sais pas si c'est ça, mais en toute manière, il faisait des choses incroyables. Et il a fait un programme de statistique à mon mari, qui était un assureur pour faire vraiment très compliqué, quand il avait 9 ans, pour dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé cette skill pour faire cette œuvre d'évangélisation. C'est pour ça que Pope Françoise l'appelait l'influenceur de Dieu, parce qu'il voulait annoncer la bonne nouvelle. Il voulait parler de l'Eucharistie, il voulait parler de toutes ces choses merveilleuses, de la Vierge Marie, il a parlé beaucoup de Lourdes, de Fatima, toutes les apparitions reconnues par l'Église, où la Vierge Marie a parlé et a dit des choses très importantes. Et Carlo disait qu'on doit écouter plus. Et alors, il voulait faire des choses pour aider les gens à avoir plus foi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le manque de foi.
Vous nous dites aussi qu'il a cherché la sanctification dans la vie quotidienne.
Oui.
Cela veut dire qu'il voulait vivre de la bonté, de la bienveillance vis-à-vis des autres. Il aimait son prochain presque naturellement, d'un élan du cœur.
Oui, mais Carlo, c'était quelqu'un qui, quand il rencontrait une personne pour la route, il ferait un sourire et le saluait, même s'il ne connaissait pas. Il était extraordinaire dans ces façons. Parce qu'à Milan, la gens s'est très pris de le travail. Ils ont toujours des faces sérieuses. Et même s'il te connaît, il passe comme ça pour...
Vous étiez à Milan à l'époque.
Oui, hein, oui, mais... oui. Et parce que nous habitons à Milan, hein, nous avons une maison à Assise, mais notre Carlo, c'est un centre de l'église de Milan. Hein.
Oui.
Et vraiment, Carlo, c'était incroyable parce qu'il faisait des sourires. Pour lui, chaque personne était un monde, était importante. Et alors, il aimait la gente, hein, ça c'était ça. Et il les montrait, il témoignait surtout sa union avec Dieu. On le sentait quand on était près de Carlo, on sentait cette présence de Dieu, qu'il avait cette union spéciale. Il disait que si on n'est pas connecté avec Internet, nous sommes désespérés. Mais si nous ne prions pas, nous ne sommes pas connectés avec le ciel. Ça, c'est un problème.
Donc, il faisait montre de cette attention aux autres. Et c'était un jeune pétri de prière aussi. Il aimait la prière et en particulier, il a un lien très fort avec l'Eucharistie.
Oui, absolument. La messe quotidienne, l'adoration eucharistique quotidienne, les chapelets chaque jour, la lecture de la Sainte Écriture, mais aussi de faire des œuvres de charité, non? Charité qui c'est l'aide, comme je disais, aux clochards dans la route, parce que il faisait comme un caritas domestique, hein. Il a commencé à mener des repas, des sacs à couchage, parce que nous vivons dans les centres de Milan et malheureusement autour de notre quartier, il y a beaucoup, beaucoup de clochards dans la route. Alors il disait, j'ai une maison, j'ai l'amour de mes parents, cette personne, rien. Et alors il a commencé dans une façon pratique à aider cette personne. Et puis, aussi spirituellement, il a fait beaucoup de choses, comme je disais, l'exhibition sur le miracle eucharistique, il a fait les catéchistes, et aussi des œuvres comme par exemple aider les copains qui avaient plus de problèmes à l'école ou aider avec les computers. Il faisait des sites gratuitement. Il a fait aussi pour des paroisses, pour les jésuites, pour les volontariats des jésuites, pour les jeunes. Il a fait beaucoup de choses, mais naturellement la chose plus importante c'était cette chose qu'il a fait pour annoncer la foi, qui seulement dans les États-Unis, Carlo est testimonial du revival eucharistique. La conférence épiscopale des États-Unis l'a choisi comme testimonial parce que son exhibition est allée presque in 2000 paroisses et sont en tous 18 000 paroisses. Vous imaginez combien son œuvre est en train d'aider beaucoup de gens. Et alors, c'est vraiment son œuvre aussi spirituelle qu'il a fait. Hein.
Pour la maman que vous êtes, il devait déranger quand même avec cette, d'abord précoce, plein d'initiatives, génial. Donc, ça n'était pas très confortable quand même, la vie quotidienne.
Non, non, c'était vraiment normal. Il était très sympathique. Il aimait les sports, mais avec équilibre. Non, il n'était pas folle de le football ou tout ça. Il aimait tous, mais avec en balance.
Hein. Ah oui.
Et puis, il avait beaucoup d'amis. Il régulait, il faisait des films avec les chiens parce qu'il était très bon aussi à utiliser tous les programmes, Final Cut Pro, toutes ces choses. Il faisait des petites animations avec ces programmes derniers, non? Mais il faisait rigoler tous les amis parce qu'il faisait l'histoire des chiens et les chats qui se combattaient. Il faisait des choses. Il était très sympathique, mais au même temps, il avait cette foi qui c'était vraiment extraordinaire. Hein. Mais ça ne l'empêche pas d'être normal, un jeune normal de son temps. Il aimait aussi jouer à la PlayStation, par exemple. Non. Mais il disait maximum, je vais jouer avec ça maximum 1 heure par semaine. Parce qu'il comprenait que c'était dangereux. Et quand il a reçu à 8 ans cette joue, il a dit maximum 1 heure par semaine. Et il a maintenu ça pour dire comment il était balancé dans sa vie. Hein. C'est un modèle aussi pour dire à les jeunes d'utiliser cette moyen technologique, cette social, mais avec équilibre. Hein. Tout avec l'équilibre.
Avant de marquer une pause, je signale que vous avez écrit ce livre, Le secret de mon fils Carlo Acutis, avec un journaliste qui s'appelle Paolo Rodari. Et vous racontez toute cette vie. Hein. Nous marquons cette pause, madame, si vous voulez bien, et nous nous retrouvons juste après pour continuer ce dialogue avec vous. J'aimerais que vous nous disiez notamment son lien avec Lourdes. Ça sera intéressant que là-dessus nous ayons quelques échanges. À tout de suite.
Présence
de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui est l'auteur de ce livre, Antonia Salzano Acutis, Le secret de mon fils Carlo Acutis. Carlo Acutis a été canonisé le 7 septembre 2025. Et madame, vous nous faites l'honneur d'être l'invité de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
Pour nous parler de votre fils qui a eu une vie fulgurante, 15 années, durant laquelle il a marqué tous ceux qu'il a croisés. On l'appelle le cyberapôtre. Le guide de Jésus, il avait du génie concernant toutes les questions digitales, vous nous le disiez. Et puis, c'était d'abord un jeune qui aimait la prière, l'Eucharistie, et qui très vite a rayonné par sa foi et sa charité. Avait-il, Madame Salzano Acutis, un lien avec Lourdes? Parce que vous êtes de passage à Lourdes, je vous pose cette question, évidemment. Quel était son lien avec le
Il aimait beaucoup Lourdes, parce qu'on est venus ici, à Pierre la Vierge Marie, il avait une grande dévotion pour Sainte Bernadette, pour l'humilité de Sainte Bernadette. Il se souvenait, il parlait toujours de quand la Vierge Marie a dit à Sainte Bernadette, je ne te promets pas de te faire heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, oui. Non? Et il voyait Lourdes comme vraiment un message Immaculée Conception, non? Comme un message d'espérance pour nous, vraiment. Parce que la Vierge Marie nous dit, nous donne sa confiance, sa espérance qui aussi pour nous, non, nous attend quelque chose d'extraordinaire. Hein? Même si nous avons cette vie difficile, mais nous sommes appelés à devenir comme la Vierge Marie. Alors Carlo vraiment avait cet grand amour. Et puis il disait que l'eau, c'est vraiment importante parce qu'à travers cette eau, l'eau, et la Vierge Marie nous donne des grâces extraordinaires, des purifications, des transfigurations. Vraiment, c'est un don que la Vierge Marie nous donne. Et alors, vraiment, il aimait cet endroit, la beauté aussi des lieux, mais aussi l'atmosphère mystique qu'on se respire en Lourdes. C'est vraiment extraordinaire.
Vous allez confirmer ce qu'on m'a raconté, qu'il avait vu des images de Jean-Paul II à Lourdes en 2004. Lorsque Jean-Paul II vient en pèlerinage, il a vu ces images et ça lui a donné aussi lui-même, Carlo, l'envie de venir.
Oui, absolument, oui. Parce qu'il connaissait très bien Jean-Paul II et il avait une grande estime de cette pape, hein, un pape eucharistique, un pape extraordinaire, le pape de la Vierge Marie aussi.
Oui, un pape très marial aussi.
Oui, absolument.
Et donc vous l'avez accompagné, vous êtes venu ici à Lourdes.
Oui, nous
sommes
venus en pèlerinage et avec mon mari, ma grand-mère, ma mère, Et il y avait aussi les petites chiens de Carlo, qui étaient tellement petites qu'on les menait dans un sac. Il est venu aussi dans la, près de la grotte, caché dans la...
Oui,
je pense que c'était très, très particulière cette situation. C'était les chiens que Carlo avait voulu. C'était très petite, alors il est venu en voyage avec nous.
Il l'avait caché dans son sac, oui, et il l'avait emmené à la grotte.
Oui, parce qu'il s'est sanctifié aussi les chiens, sûrement.
Et donc, il a accompli tout ce pèlerinage. On va raconter aussi la mort fulgurante de votre fille.
Oui.
Brutale.
Oui. Mais la leucémie fulgurante, heureusement, la M3... Aujourd'hui, on se peut curer, hein, on peut la curer.
On peut guérir de ça.
Oui, oui, on peut guérir parce qu'ils ont découvert de nouvelles choses. J'ai prié beaucoup Carlo d'aider pour trouver la solution pour guérir de cette leucémie, parce qu'avant, quand Carlo l'a eu, c'était une sentence de mort.
Et il a été emporté par la maladie
C'était cinq jours, Carlo, sa maladie, c'est... Au premier moment, on s'est caché derrière une grippe. On pensait qu'il avait une grippe. C'est venu deux fois le docteur, parce qu'il avait mal à la gorge, quelque chose de très simple. Mais un matin, le troisième jour, il s'est réveillé, il ne pouvait pas... Il n'avait pas la possibilité de se mouvre. Hein?
Oui.
Et alors, on a décidé de l'emmener à l'hôpital. Et pendant la route, Carlo me dit, d'ici, je ne vais pas sortir vivant. Mais je te donnerai beaucoup de sang, de signes. Hein? Avec calme, toujours avec les sourires.
Il vous a dit ça?
Et, oui, oui. Et avant qu'on découvrait qu'il avait la leucémie, il a dit un jour, quand il avait les grippes, il a dit, j'offre mes souffrances pour l'Église, pour le pape, pour ne faire pas le purgatoire, aller tout droit en paradis. Et on trouvait ça très étrange, ce mot, non? Mais en effet, il savait, comme s'il était inspiré, non? Et des mois avant, il avait fait une vidéo où il dit, quand mon poids sera 70 kilos, je suis destiné à mourir. Et son poids était 70 kilos quand il est mort. Et c'est comme une annonce. Il regarde le ciel avec un sourire. Il n'avait pas peur de la mort. Il disait que la mort est le passage à la vraie vie. Qui a peur de la mort, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Parce que si vraiment on croit que la mort, c'est la rencontre avec Dieu, la chose la plus merveilleuse qu'on a, on ne peut pas avoir peur de la mort.
Mais tout de même, pour vous, pour les parents, ça a été un drame.
C'est un drame si on n'a pas la foi. Si on a la foi, on doit accepter la volonté de Dieu, parce que nous savons que Dieu fait tout pour notre bien.
Mais on est séparé physiquement de son fils.
Oui, c'est une vraie séparation, parce que la présence de notre chair, c'est toujours à côté de nous. Hein? Et c'est une présence, plus présence. Parce qu'ils nous voient toujours, ils sont toujours avec nous. C'est nous qui devons nous connecter avec eux, avec la prière, en vie eucharistique. C'est possible de l'écouter plus. Mais l'important, c'est de vivre cette vie unie à Jésus. Parce qu'en Jésus, nous écoutons aussi notre chair.
Aujourd'hui, vous-même, vous portez le message de Carlo. C'est devenu votre vocation de maman, de porter le message que lui-même fait rayonner.
Oui, absolument. Mais je pense que chaque mère a un fils spécial. Chaque fils est spécial, non? Chacun est appelé à devenir saint. Jésus aussi nous dit ça. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, je pense que chaque fils, pour sa maman et son papa, c'est spécial, non? Et moi, chaque mère, chaque père parle de leur fils, non, normalement. Alors, moi aussi, je suis appelée à parler d'un fils particulier que l'Église a choisi comme exemple. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont saintes, qui sont dans les chemins de la sainteté. Peut-être qu'ils ne vont pas être canonisés publiquement, mais je suis confiante qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes merveilleuses, beaucoup de... Et Carlo, c'est un modèle, hein. Et alors, je veux dire que, oui, c'est ma mission de parler de Carlo, de parler de sa spiritualité, les choses qu'il a fait. Mais je veux dire un message à toutes les mamans que vous avez, votre fils sont spéciales aussi.
Donc, vous vous dites, que Carlo était forcément rayonnant, mais que toutes les mamans doivent voir la richesse qu'elles ont.
Oui, parce que ce sont des créatures dédiées, ce sont spéciales. Chaque personne est spéciale. Et je pense que les mamans doivent faire venir, c'est comme un violon de Stradivari, non, les très connus. Hein?
Oui.
S'il n'a pas le musicien qui est capable de jouer bien, on ne peut écouter le son.
Le violon peut...
Et les mamans sont comme les musiciens qui doivent faire... Hein? Et parce que la mission de chaque maman, c'est de faire venir, hein? D'aider leur fils.
Aujourd'hui, vous êtes très sollicité. Vous voyagez beaucoup, vous témoignez beaucoup. Vous êtes vous-même étonné de ça ou bien vous dites c'est ainsi?
Écoutez, moi, avec mon travail aussi, ma vie, j'ai voyagé, j'ai vécu dans plusieurs de villes, et j'ai parlé des langues. Et alors, c'est pas si difficile pour moi, parce que j'étais préparée, hein, parce que j'ai parlé les langues, j'ai voyagé, je connaissais. Mais je l'ai fait avec plaisir, parce que je pense que la spiritualité de Carlo, c'est une spiritualité qui aujourd'hui peut être suivie. C'est facile, c'est possible, la sainteté aussi aujourd'hui. Et on ne doit pas faire des choses incroyables. L'important, c'est d'ouvrir la porte de le cœur à Dieu et permettre à Dieu de faire le chef d'œuvre qu'il veut faire avec notre vie. Le problème, c'est ouvrir cette porte, hein, et surtout avoir plus confiance dans l'Église, dans les sacrements, la prière, la Sainte Écriture, et chercher toujours, même si on n'a pas la foi, chercher. Parce que la recherche est un signe d'intelligence, et je suis sûre que si on cherche avec le cœur pur, avec Dieu, nous fait trouver quelque chose, sûrement.
Après Carlo, vous avez donné naissance à des jumeaux?
Ah oui, ça c'était un cadeau de Carlo, parce que après qu'il est mort, il est 2006, j'avais 39 ans, j'étais déjà âgée, et avant je ne me demandais pas pourquoi je n'ai pas eu autre fils, non, parce que j'ai accepté la situation. Et je disais, mais je suis encore jeune, pourquoi n'essayez pas de comprendre s'il avait des problèmes? Apparemment, il n'y avait pas de problème, mais après 4 ans que j'essayais, j'avais déjà pensé d'adopter des fils dans d'autres pays. J'avais déjà fait toutes les pratiques. Et en nuit, je vais réveiller Carlo qui me dit « Non, mais t'inquiète pas, tu deviendras nouvellement maman. » Et après, à moi, je suis restée enceinte de 2 jumeaux. Et la date le docteur avait écrit pour la naissance de ces jumeaux, c'était le 12 octobre, la date de la mort de Carlo. Après, ils sont nés un peu plus en anticipation. D'accord. Ils l'ont anticipé parce qu'en Italie, on fait comme ça avec les jumeaux. Mais la date, c'était la signature de la grâce de Carlo pour moi.
Merci beaucoup pour cette belle histoire que vous racontez avec tant de cœur. Je redis que le secret de mon fils Carlo Acutis, comment il est devenu saint, c'est le livre que je vous conseille à tout un chacun de vous saisir pour comprendre et pénétrer encore plus dans la vie de Carlo Acutis. Il y a aussi un prier 15 jours avec Carlo Acutis, paru chez Nouvelle Cité, et également, signé Jean-Baptiste Maillard, devenir saint avec Carlo Acutis, paru chez Parole et Prière. Donc, 3 ouvrages, notamment, parmi tous ceux qui ont pu paraître. Il y a beaucoup de livres. Merci beaucoup, madame.
Merci.
On vous souhaite un bon séjour à Lourdes.
Merci.
Et à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Radio Présence à Auch. 89.6.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habiles, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Éléonore attaquait le thème au piano. On trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter. Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret. Elle disait reprenez une femme forte. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour, Éléonore a quitté la maison, emportant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés, la fugue seule est restée. Mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
Présence à Figeac 97.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Sept nouveaux saints reconnus ce dimanche par l'Église catholique, un moment de grande joie et de solennité sur lequel le pape est revenu.